Nous sommes des funambules de la grâce. Dimanche dernier, nous étions des milliers à nous réunir sous les chênes et les châtaigniers du mas Soubéran à Mialet dans le Gard. C'est une rencontre annuelle des protestants qui fait mémoire de la période du désert au XVIIIe siècle où ce peuple devait se cacher pour vivre sa foi. Et en cette année 2017, nous célébrions aussi les 500 ans de la réforme protestante. À la fin du culte, le pasteur a béni l'assemblée en utilisant cette expression interpellante « Nous, funambules de la grâce, sommes bénis ». En dehors du côté poétique de cette expression, un funambule étant un danseur de cordes qui se déplace à une certaine hauteur du sol, muni d'un balancier en main pour éviter la chute. Voici une belle image pour nous ce matin. Avez-vous déjà vu un funambule à l'œuvre? Oui, non? Le funambule s'exprime, se donne à voir différemment. L'artiste accompli est heureux. Il explore une autre forme de marche. Il est autre et en même temps avec nous. Pleinement humain, il nous invite à le rejoindre ailleurs. Il offre du rêve. Il se donne du plaisir et en procure aux autres, tout en gardant une vigilance de tout instant. Heureux et en même temps prudent. Nous, chrétiens, ce matin, réunis aux côtés de Milo, un artiste en herbe, disent ses proches, avec ses mimiques et ses sourires, offerts à volonté, je l'ai expérimenté. Vous sentez-vous ce matin funambule de la grâce ? Comme si vous étiez vraiment là, en même temps, ailleurs. Heureux, invité de Dieu aux côtés de cet enfant du Père, laissant rayonner votre bonheur et en même temps restant vigilant dans votre marche pour la vie. Je trouve la métaphore du chrétien funambule plutôt réussie. Il est vrai que nous cherchons souvent nos mots pour nous dire chrétiens et le partager aux autres. Il faut déjà, dans notre quotidien, trouver l'occasion et l'audace d'en parler. Et là, ce n'est pas facile. Chrétiens traditionnels, nous n'avons pas la fougue des néo-convertis qui, tout à la joie de leur nouvelle naissance et dans la persuasion de l'urgence, partagent leur foi avec une aisance qui parfois nous déconcerte. Cela vous est peut-être déjà arrivé d'être le destinataire de la question « C'est quoi finalement être chrétien ? Qu'est-ce que cela change pour toi concrètement ?» Et c'est vrai, au-delà des réponses convenues, nous hésitons. Nous balbutions quelques mots, nous essayons de fouiller dans ce qui se vit bien réellement au fond de nous, mais sur lequel il est si délicat de plaquer des mots tellement limités. Dans la Bible, des millénaires en arrière de nous, les hommes et les femmes, marchant avec le Dieu vivant, essayaient déjà de transmettre en mots leur confiance. Jésus, dans le Nouveau Testament, affectionnait les paraboles. Vous savez, ces histoires, ces discours imagés pour donner à voir, à entendre, à goûter, à sentir l'amour de Dieu pour chacun. Dans le Premier Testament, le livre des psaumes est entre autres tissé de poésie et d'images. Nous avons entendu le début d'un psaume ce matin, le premier d'une série de 150. Vous souvenez-vous à quoi l'homme heureux est-il comparé? Quelle est l'image utilisée dans ce psaume? Vous vous souvenez? un arbre. L'homme heureux, décrit le psaume. L'homme heureux, alors aujourd'hui nous ajouterions la femme heureuse, l'enfant épanoui, tout un programme. Le croyant est heureux, dit la Bible. Et moi? Et toi? Là maintenant, tout de suite, suis-je une femme heureuse? Suis-je un homme heureux? Que répondez-vous? C'est une question difficile. Les hommes et les femmes contemporains de la rédaction des livres bibliques vivaient bien sûr il y a très longtemps, mais leurs problématiques profondes, spirituelles, existentielles, étaient proches des nôtres. Plusieurs millénaires en arrière, déjà, les hommes et les femmes cherchaient, s'interrogeaient, aspiraient à une forme de bonheur. Et les récits laissés en témoignage dans la Bible nous y éclairent. Les deux textes que vous avez choisis, Elsa et Florent, en font partie. Le psaume, comme le passage de Paul aux Éphésiens, exprime la même chose, fuir le mal, fuir tout ce qui détruit mon prochain, fuir tout ce qui me détruit et m'éloigne de Dieu. Et au contraire, rechercher le bien, tout ce qui m'élève, tout ce qui accueille l'autre. Et en cela, honorer Dieu le Père. Les valeurs chrétiennes que vous voulez transmettre à vos enfants sont des valeurs d'accueil, de paix, de bienveillance, que bien sûr, et cela nous est souvent répété, de très nombreuses personnes non-croyantes vivent aussi et même parfois mieux que nous. Toutes ces valeurs sont heureusement partagées par une très grande majorité d'êtres humains sur notre terre. Alors qu'a donc le chrétien en plus? À moins qu'il n'en ait en moins, le chrétien reçoit. Le chrétien est au bénéfice. Le chrétien vit d'un amour qui vient d'ailleurs et qui lui est donné. Pleinement dans le monde, il est en même temps ailleurs. Il se sait porté, animé, accompagné éternellement pour transmettre et témoigner. Le chrétien est celui qui marche dans le monde, parmi le monde, heureux et prudent, confiant et vigilant, paisible et concentré. Le chrétien est celui qui chute. Il est celui qui se relève, habité par l'espérance qu'il partage autour de lui. Le chrétien est audacieux. Il vit de l'amour insensé de Dieu qui l'engage. Le chrétien se funambule de la grâce. À l'époque biblique du peuple d'Israël, il faut raconter pour témoigner, pour la mémoire de la famille. Bien avant l'ère de communication que nous connaissons, la première façon de transmettre est de raconter. La tradition des soirées au coin du feu, d'il n'y a pas si longtemps, permettait aussi de partager et de transmettre les histoires familiales. Le peuple de Dieu qui a fait l'expérience dans sa vie de l'amour puissant du Père invite les lecteurs des psaumes à faire leurs ses propres mots et à entrer dans la reconnaissance que nous appelons louange. La poésie biblique n'a pas de visée esthétique, mais elle est un outil pour la mémoire. Les psaumes ne sont pas des textes à lire, mais des textes à entendre et à recevoir au plus profond de nos cœurs comme sève de vie. Dans notre psaume, l'homme heureux est celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Et alors, nous dit le psaume, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les racines sont toujours irriguées et dont le feuillage ne se flétrit pas. Vous avez peut-être entendu parler ou même lu ce livre à succès du printemps dernier, La vie secrète des arbres. Du forestier, cet auteur allemand, Peter Vollenben. Certains connaissent ? Ce monsieur montre que les arbres sont des êtres sociaux, que les arbres apprennent, qu'ils mémorisent, qu'ils se soignent les uns les autres et préviennent même du danger. Extraordinaire. Faisant partie des organismes les plus lents, il nous rappelle que les arbres sont des êtres qui prennent le temps nécessaire pour vivre et pour grandir, discrètement mais efficacement, et avec une durée de vie insolemment supérieure à celle de l'espèce humaine. L'homme heureux, partage le psaume, n'est pas alors celui qui fait le plus de bruit, qui parcourt le plus de kilomètres ou qui produit toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite. Non, l'homme heureux est comme un arbre, bien planté, avec des racines sûres et solides, qui prend le temps nécessaire, avec des périodes d'éclat et d'autres de silence, et qui trouve son désir profond dans la parole du Seigneur murmurée jour et nuit. Dans la traduction de la Bible de M. Chouraki, le terme hébreu « heureux » du psaume est traduit par « en marche ». Chrétien, funambule de la grâce. Alors que Milo, cet artiste, aux côtés de vous, ses parents et de son frère Noé, soit de ceux qui rient, qui partagent et qui se nourrissent de la parole bénie de Dieu. En cette période de reprise pour beaucoup d'entre nous, que cette nouvelle année à la tâche soit habitée par la sagesse de l'arbre et par la grâce du funambule. La sagesse de l'arbre et la grâce du funambule. Amen.